débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
Mardi 9 avril, au sommaire des experts ce matin, faut-il instaurer un quota de produits européens dans les marchés publics? Bruno Le Maire tente de convaincre nos partenaires européens. L'Allemagne est toujours réticente à l'idée d'un Buy European Act. Faut-il davantage de protectionnisme pour soutenir notre industrie? On va en débattre avec nos invités. 25 propositions pour faire de la France un pays à la pointe de l'intelligence artificielle. Un rapport a été remis à Emmanuel Macron il y a quelques semaines. L'objectif, rattraper notre retard par rapport notamment aux États-Unis. Comment améliorer l'emploi des seniors? La question est d'actualité. Les partenaires sociaux vont se pencher une nouvelle fois sur la question aujourd'hui. 36,2% des personnes âgées de 60 à 64 ans ont aujourd'hui un emploi. La France est à la traîne par rapport aux voisins européens. Pour quelles raisons? Là encore, on va en débattre. Comme chaque matin, une carte blanche pour chacun de nos experts. Chacun va défendre, présenter un sujet à l'antenne. On parlera de l'innovation en Europe. On va parler du marché unique européen et du taux d'emploi. Vous pouvez également participer à cette émission. Vous envoyez vos questions, vos commentaires sur X, anciennement Twitter, @StephPedrazzi. Je me ferai un plaisir de relayer vos questions auprès de nos invités. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Nos trois experts ce matin en plateau, Dorothée Rouzet, chef économiste à la Direction Générale du Trésor. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Philippe Aguillon, professeur au Collège de France, membre du Cercle des économistes, co-auteur du livre « Le pouvoir de la destruction créatrice » aux éditions Odile Jacob, et Gilles Berset, bonjour, professeur d'économie à la Neoma Business School, auteur de « Travailleurs mais pauvres, inégalités et lutte contre la pauvreté laborieuse » aux éditions de Boeck Supérieur. Bonjour à tous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. On va évidemment commencer avec cette idée du European Act, Buy European Act. Une nouvelle fois hier, Bruno Le Maire a tenté de convaincre ses homologues européens. Il l'a expliqué très clairement. Les Américains le font, les Chinois également. L'Europe aurait tort de ne pas le faire. Dorothée, est-ce que l'Europe, c'est ce que disait Hubert Védrine il y a quelque temps, a essayé d'être le premier de la classe, on finit par être l'idiot du village?
Bon, je pense que, enfin, le fait que l'Europe se soit appuyée sur un modèle qui reste ouvert et respectueux des règles internationales, je pense que c'est une bonne chose et ça nous a bénéficié. Enfin, on est aussi le continent qui est le plus ouvert aux échanges, qui exporte le plus. Donc je pense qu'il faut pas, voilà, il faut pas voir ça comme
une
faiblesse ou une naïveté de l'Europe. Après, ce qu'il faut voir sur ces sujets, enfin, le sujet du Buy European Act, en un sens, ça fait longtemps qu'il est un peu dans l'air. Il y a des grosses divergences entre européens sur le sujet. Et effectivement, la question, c'est un peu celle de l'équilibre des relations, puisque les marchés publics européens sont ouverts, les marchés publics américains ou chinois sont fermés aux entreprises européennes. Donc, je dirais, l'idéal, ça aurait été que tout le monde puisse avoir accès de manière un peu ouverte. Bon, on n'est pas prêt de négocier ce genre de choses avec les États-Unis ou avec la Chine. Donc, du coup, la question se pose de la réciprocité. Sachant que, oui, certains pays comme l'Allemagne auraient peur de mesures de rétorsion. Ils ont probablement pas tort, hein, puisque la Chine a montré récemment sur le sujet des véhicules électriques, notamment, qu'elle était capable aussi de trouver des mesures de rétorsion là où ça fait mal. Donc,
et viser notre cognac.
En visant en particulier le cognac français. Donc c'est possible, mais en même temps, il s'agit de pays qui font déjà ce dont on parle. Ensuite, sur le fond, la question qui se pose, c'est un peu celle de l'équilibre. C'est-à-dire que forcément, si on ajoute plus de critères, des critères de contenu local, etc., dans les marchés publics, ça va coûter plus cher. Donc ça va coûter plus cher aux donneurs d'ordre, ça va coûter plus cher à la puissance publique. Et en face de ça, pour avoir peut-être, voilà, plus de soutien à notre industrie, plus de critères environnementaux, etc. Donc il faut se poser la question de cet équilibre. Et je pense qu'il faut aussi dire qu'il y a eu des avancées assez récemment sur le sujet, au niveau européen comme français, pas sur des clauses protectionnistes, mais sur le fait d'intégrer des considérations qui ne sont pas que le prix dans les marchés publics. Donc c'est quelque chose qui est renforcé dans la réponse européenne à l'Inflation Reduction Act en mettant un seuil de 30% de marchés publics qui doit avoir des critères autres que le prix, qui peuvent être la durabilité, la contribution à l'innovation, etc. Enfin, des critères environnementaux notamment. En France, on a commencé à le faire. Et en fait, ces critères environnementaux, ça permet aussi, sans aller vers du protectionnisme pur et dur, de privilégier des produits qui sont plus respectueux de l'environnement, qui n'ont pas forcément été produits avec de l'électricité au charbon ou traversé toute la planète.
Philippe Aguillon, est-ce qu'il n'y a quand même pas une forme de naïveté dans ce débat de la part des Européens ?
Je partage beaucoup de ce que, enfin, ce que, très largement ce que dit Dorothée. Je voudrais simplement dire que, effectivement, face à une, des États-Unis et la Chine qui ont des vraies politiques industrielles qui sont très, très assertives, il faut que l'Europe le soit également. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut faire très attention que la meilleure garantie d'être compétitif, c'est l'innovation. Et le problème, c'est que nous, nous pêchons par manque d'innovation. Il y a les États-Unis et la Chine innovent beaucoup, et nous, nous sommes moins innovants. Et nous sommes beaucoup moins innovants, et je le dirai peut-être tout à l'heure quand on parlera de politique d'innovation en Europe, ouais, dans les high-tech. Voilà, on s'est beaucoup concentré sur des entreprises traditionnelles, sur des secteurs mid-tech. Alors que les États-Unis et maintenant la Chine vont très sur le high-tech. Et donc, je crois que c'est très important. L'innovation est la meilleure garantie de marchés mondiaux. Alors, je pense qu'il ne faut pas être naïf. Et effectivement, face à des gens qui ont des comportements un peu protectionnistes, on ne peut pas être naïf et dire nous, on ne le fait pas. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il ne faut rien faire qui puisse nuire à l'innovation. Si on est trop protectionniste, on se ferme des marchés à l'innovation. Et donc, on devient moins innovant. Et donc, on finit par être moins compétitif. Donc, il faut faire très attention quand on va dans la direction protectionniste, de le faire intelligemment sur certains secteurs et pas d'une manière qui pose problème pour notre innovation à nous et qui donc fait qu'à long terme nous serons encore moins compétitifs que nous le sommes aujourd'hui.
Gilles Berset, est-ce que la France a raison de procéder de manière peut-être un peu hypocrite comme on l'a fait avec les voitures électriques chinoises en se cachant derrière des arguments de transition écologique plutôt que d'assumer une certaine forme de protectionnisme?
Je pense que la France a raison, parce que utiliser d'autres moyens serait s'exposer évidemment à des mesures de rétorsion encore plus fortes et puis à des contentieux devant l'OMC par exemple, devant des institutions qui sont censées garantir justement le libre-échange. Je voudrais quand même souligner deux choses. D'abord que l'IRA, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, est quand même une intervention massive et très protectionniste aux États-Unis. C'est un point quand même qu'il faut souligner. Protectionniste d'ailleurs, pas par rapport à des entreprises américaines, mais par rapport à des entreprises domiciliées aux États-Unis, par rapport à une production domiciliée aux États-Unis. Et ça aboutit à quoi ? Ça aboutit chez beaucoup de producteurs européens à une délocalisation d'une partie de leur production sur le continent américain, de la même façon que des producteurs japonais, des producteurs taïwanais de microprocesseurs envisagent de créer des établissements, d'ouvrir des entreprises aux États-Unis pour bénéficier de l'IRA américain. Donc c'est quand même une politique très très forte, très active, avec des moyens colossaux, y compris d'ailleurs dans l'innovation, dans les microprocesseurs. 200 milliards de dollars à terme concernant les seuls microprocesseurs. Enfin, c'est des sommes hallucinantes, hors de proportion par rapport à tout ce qu'on peut faire en Europe. Donc, il ne faut pas être naïf sur ce point-là. Néanmoins, sur le long terme, Dorothée l'a rappelé, qui paiera ce renfermement protectionniste qui commence à se généraliser sur les différents continents? C'est le consommateur. C'est le consommateur, voilà, il faut le dire clairement. C'est le consommateur qui paiera le fait que une libre concurrence généralisée n'aboutit pas, évidemment, au meilleur choix en termes de prix pour les composants des différents biens et qu'on peut produire sur le continent européen.
On a souvent préféré le produit le moins cher. On est un petit peu arrivé au bout de cette démarche.
C'est la qualité qui compte aussi. C'est le rapport qualité-prix qui compte.
Évidemment.
On veut surtout, c'est par la qualité. C'est pas juste réduire les coûts, c'est améliorer la qualité. Mais vous voyez, c'est intéressant, parce que tu parlais de l'exemple IRA. Il y a des aspects protectionnistes, donc il faut y répondre.
Absolument.
Mais en même temps, il y a l'aspect innovation.
Absolument.
Et donc, juste dire buy a European Act sans avoir une politique d'innovation qui réponde à celle de l'IRA, à mon avis, c'est mauvais.
Il faut que ce soit adossé.
Et c'est là que c'est le bas blesse. Pour le moment, il n'y a pas une politique européenne sérieuse d'innovation.
Donc voilà. C'est un peu court, selon vous, de dire les Américains le font, faisons la même chose, soyons protectionnistes.
Mais non, parce que les Américains, ils ont une stratégie quand même très basée sur l'innovation, que nous n'avons pas en Europe.
On va parler d'un autre sujet, parce qu'on va essayer de garder du temps pour parler de l'intelligence artificielle, c'est l'emploi des seniors. Nouveau round de discussion aujourd'hui pour les partenaires sociaux. On a un problème, Gilles Berset, c'est le taux d'emploi des plus de 60 ans en France. On est à la traîne, les choses se sont améliorées. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'emploi des seniors ?
Oui, alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le taux d'emploi des 60-64 ans, qui sont évidemment au cœur de la cible des réformes des retraites précédentes, le taux d'emploi des 60-64 ans est de 36% en France, quand il est, par exemple, de 30 points au-dessus de cela dans un pays comme les Pays-Bas. La différence est absolument considérable, elle peut être liée évidemment à des éléments culturels, ça, on ne peut pas l'écarter complètement, mais elle est liée, on peut le penser aussi, surtout à des désincitations à l'offre de travail pour les seniors concernés. Ces désincitations sont multiples. Il y a non seulement l'âge de départ à la retraite, mais il y a aussi des dispositions concernant l'indemnisation chômage qui sont en discussion entre les partenaires sociaux, ce qu'on appelle de façon un petit peu large la filière senior, qui aboutit à des durées d'indemnisation plus longues, et qui peuvent être parfois beaucoup plus longues, puisque même un chômeur senior qui atteint l'âge de départ à la retraite, l'âge d'ouverture des droits pour la retraite, peut rester au chômage s'il n'a pas encore une retraite à taux plein, jusqu'à sa retraite à taux plein, bien au-delà de 62 ans et un trimestre maintenant. Donc, il y a vraiment une difficulté très très forte en France du côté de l'emploi des seniors, parce que il y a une multitude de dispositions désincitatives pour concernant l'emploi des seniors, quoi. Ouais. Entre autres dans l'indemnisation du chômage.
Ouais. Dorothée, est-ce qu'on paye pas aujourd'hui on fait pas les frais aujourd'hui de cette politique dont on a peut-être largement abusé dans les années 80-90, qui étaient les pré-retraites. C'est-à-dire que dès qu'on arrivait à l'âge de 55 ans, l'entreprise se débarrassait des seniors, et puis c'était l'assurance chômage qui payait.
Oui, en un sens. Alors, les pré-retraites, vraiment, ça a largement disparu. Maintenant, il y a aussi des pré-retraites un peu déguisées, effectivement payées par l'assurance chômage. On a vu, comme le disait Gilbert, je suis assez largement d'accord. En fait, le système donne quelque part le signal qu'à partir d'un certain âge, c'est plus vraiment la peine de chercher du travail, qui est contradictoire avec ce qu'on cherche à faire par ailleurs sur le taux d'emploi. Donc là, il y a vraiment des choses à regarder. Et on a vu quelque chose qui est assez frappant, hein, c'est que le pic de séparation, à la fois licenciement, rupture conventionnelle, donc avant la réforme des retraites de 2010, il était à 57 ans. C'est-à-dire qu'il y avait le plus de gens qui... Et pourquoi ? Parce qu'on a 3 ans d'indemnisation chômage et l'âge de la retraite était à 60 ans. Et puis c'est progressivement décalé de 2 ans avec l'âge de la retraite. Donc c'est bien qu'il y a quand même quelque part des comportements un peu stratégiques. Après, c'est une partie du problème. Donc il y a cette question un peu des incitations financières qui en fait n'incitent pas à l'emploi. Et il y a des questions qui sont plus du ressort aussi des partenaires sociaux, qui sont à la fois les conditions de travail, l'adaptation des postes de travail en fin de carrière, qui sont aussi des questions de formation, parce qu'on voit par exemple quelqu'un entre 55 et 60 ans se forme 2 fois moins que quelqu'un qui a 15 ans de moins. Or, pour ce public-là, pour les seniors, quand ils se forment, quand un chômeur senior se forme, c'est la classe d'âge pour laquelle on voit le plus d'effets sur l'emploi de la formation. Donc là aussi, il y a quelque chose. Et les freins à la formation qu'ils citent, souvent, c'est alors pour ceux qui sont en emploi, beaucoup plus que les plus jeunes que l'employeur refuse ou ne soutient pas, ou qu'ils n'ont pas trouvé la formation adaptée. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire de ce côté-là, à la fois d'avoir des formations qui sont adaptées et de s'assurer que les seniors, y compris ceux qui sont toujours en emploi mais qui pourraient risquer de le perdre, y ont bien accès.
Ouais. Philippe Aguillon, est-ce que c'est pas aussi un problème de perception des seniors en entreprise ? Dans les pays scandinaves, on arrive à faire cohabiter des seniors avec des jeunes pour transférer le savoir. Nous, on n'y est jamais arrivé.
Donc je partage largement ce qui a été dit, mais je ne crois pas que ce soit uniquement le fait qu'il faille durcir l'assurance chômage. Moi, j'aime beaucoup la loi Borne, personnellement, elle me va très bien. Mais par exemple, j'ai l'exemple d'un collègue à moi, d'un jeune, dont le père, il y a eu une rupture conventionnelle et il a été mis donc au chômage à l'âge de 55 ans. Ouais. Et il a suivi exactement ce que Pôle Emploi lui disait. Il a été d'un secteur à un autre. Il a changé de secteur. Il a essayé d'avoir un CDI. Il a jamais réussi à l'avoir, quoi. Donc il y a vraiment une grosse responsabilité du côté des entreprises. Elles doivent former, elles doivent garder. Je sais que dans le rapport Blanchard-Tirole, toute la dernière partie du rapport est consacrée à toute série de mesures pour inciter les entreprises, parce que sinon on peut faire croire que c'est les chômeurs, que c'est les gens, que c'est les employés, que toute la faute repose sur eux. Moi, je crois que beaucoup repose sur les entreprises, qui ne se responsabilisent pas suffisamment de former les personnes et de leur donner, de leur permettre de rester plus longtemps. Donc je crois vraiment que il faut faire porter ça beaucoup sur les entreprises, en fait, ouais, personnellement.
Est-ce qu'il faut le faire de manière contraignante ?
Je sais pas, incitative. Alors, je sais pas, il y avait des idées. Moi, je ne suis jamais pour forcer, mais je pense que l'incitation est de tous les côtés. Mais je pense que, voilà. Alors là, je suis pas, j'ai devenu des connaisseurs devant moi. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses, et le rapport Blanchard-Tirole en proposait, pour inciter les entreprises à garder plus longtemps, à ne pas, voilà, à former, à permettre aux seniors de former des juniors, voilà, de récompenser des entreprises qui permettent à des personnes de rester plus longtemps.
Ouais. Gilbert Sept, une enquête a été publiée cette semaine. Il y a à peu près un tiers des jeunes qui n'aiment pas et ne veulent pas des seniors en entreprise. on a un vrai problème de perception, un vrai problème d'image avec les seniors en France.
Oui, alors, il faut interpréter la chose d'une façon nuancée. Je veux dire par là que des jeunes qui ont toujours vécu entre des jeunes pendant toute leur période scolaire, quand ils rentrent dans le monde du travail, évidemment, c'est un choc parce qu'ils se retrouvent avec des gens de toutes les générations, évidemment, dans le monde du travail. Donc, sur ce plan-là, il y a une question de perception, de rupture avec une période précédente. Je voudrais quand même ajouter deux choses à ce qui a été dit. Bon, d'abord, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont une gestion active de leur pyramide des âges. J'ai eu beaucoup d'DRH de grandes entreprises, par exemple, il y a deux ans, qui, compte tenu des durées d'indemnisation plus longues, qui étaient à l'époque de 3 ans pour les personnes de plus de 55 ans, eh bien, avaient une gestion active. À 59 ans, faisaient une rupture conventionnelle d'un commun accord avec leurs salariés, qui était pendant 3 ans au chômage, jusqu'à aboutir à 62 ans, l'âge de départ à la retraite. Donc, effectivement, il peut y avoir d'un commun accord, en quelque sorte, une gestion très très active des avantages et inconvénients de durée d'indemnisation qui sont ce qu'elles sont. Donc il faut être attentif à ça. Il n'y a pas que les chômeurs, il y a aussi les entreprises qui ont cette gestion active. Ça c'est un premier point qu'il faut souligner. Un deuxième point qu'il faut souligner, c'est que la France est l'un des pays, sinon le pays dans lequel les durées d'indemnisation sont les plus longues. Même en les diminuant, comme ça a été fait récemment avec la contracyclicalité, et même si elles étaient diminuées, comme veut le faire Gabriel Attal, eh bien, nous resterons l'un des pays dans lequel les durées d'indemnisation sont les plus longues de tous les pays de l'OCDE, et l'un des pays dans lequel les conditions d'éligibilité pour bénéficier de l'indemnisation chômage sont les moins restrictives, les moins dures, en quelque sorte. Donc, faut quand même situer les choses à leur place. Les pays qui ont un très faible taux de chômage et un très fort taux d'emploi des seniors sont des pays dans lesquels aussi les durées d'indemnisation sont plus courtes et les conditions d'éligibilité à l'indemnisation chômage sont généralement plus dures que les nôtres.
Dorothée Rouzet, est-ce qu'il n'y a pas un risque de précarisation des seniors si on décale, comme on l'a fait, l'âge de départ à la retraite sans améliorer le taux d'emploi ? C'est mathématique.
Alors, je pense que c'est justement l'enjeu. C'est pour ça que le décalage de l'âge de la retraite, c'est un élément et c'est pas l'ensemble. Et que oui, il faut parler, je dirais, du reste du système, de la formation, des carrières, des gestions de carrière, des reconversions. Et c'est aussi pour ça que ce sujet de l'emploi des seniors, il est important et il est protéiforme. Après, enfin, je suis d'accord avec ce que vient de dire Gilbert sur les questions d'assurance chômage. C'est pas forcément pour stigmatiser les seniors eux-mêmes. Enfin, honnêtement, les ruptures conventionnelles 3 ans avant l'âge de départ à la retraite, très largement, quand c'est fait, ça arrange tout le monde. C'est-à-dire, l'entreprise est parfaitement d'accord, ça l'arrange, et tout le monde se met d'accord pour que l'assurance chômage prenne le relais. Donc c'est aussi une question d'incitation des entreprises. Et puis, les questions de, comment en fait on gère une carrière dans la durée, comment même à 45 ans on commence à réfléchir à comment la personne va pouvoir, si elle doit changer de poste, si on doit la former, etc. Ça se gère très en amont au niveau de l'employeur. Et après, peut-être un dernier point, il y a aussi des choses qui sont assez peu développées en France par rapport à d'autres pays, qui sont en fait soit le cumul emploi-retraite ou la retraite progressive, enfin le fait de s'arrêter progressivement quand on n'a plus forcément, pour certains métiers, je dirais, l'énergie de le faire à plein temps. Typiquement en France, du jour au lendemain, on s'arrête complètement. À d'autres endroits, on peut s'arrêter progressivement. Et je pense que bon, il y a peut-être pas beaucoup d'appétence du côté des salariés, mais il y a aussi pas beaucoup d'appétence du côté des entreprises, parce que ça se demande de se réorganiser, parce que passer quelqu'un à mi-temps, ça peut être compliqué, ça demande du management. Finalement, c'est tellement plus simple de dire prends 2 ans de chômage. Donc il y a quelque chose aussi quand même qui est à voir dans l'ensemble des acteurs.
Moi, je veux dire, mon modèle, c'est le modèle danois. Je trouve que les Danois ont trouvé un système qui s'appelle la flexi-sécurité. Pendant 2 ans. Vous avez droit à des allocations chômage, mais l'État vous aide à trouver un nouvel emploi. Et si vous refusez plus de 2 offres dans votre qualification, alors immédiatement, les allocations baissent. Moi, je trouve que c'est un système qui marche très bien. Alexandra Roulet a fait des études formidables montrant que ça vraiment, que être chômeur, être au chômage n'a aucune incidence négative sur la santé, sur le stress. Et en même temps, c'est très efficace comme système. Ça permet aux gens de rebondir facilement d'un job à un autre. Moi, mon modèle, c'est vraiment la flexi-sécurité danoise. Moi, je comprends pas pourquoi on va pas vers ce système. Franchement. Et ça, c'est un système où ça veut dire, si tu refuses 2 emplois dans ton offre, très vite, tu perds tes allocations chômage. Mais au moins, on t'aide à trouver un nouvel emploi. L'État est là pour t'aider, dès le début. Donc, tout le monde est responsabilisé. Les entreprises, l'État et l'employé. Moi, je trouve que c'est un excellent système. Pourquoi on n'essaye pas de faire pareil.
Gilles Berset, pourquoi c'est si difficile de trouver un accord sur l'emploi des seniors ?
Parce que les intérêts sont évidemment divergents. Les syndicats peuvent avoir le sentiment de moins protéger les salariés ils reculent les âges de bénéfice, de durée d'indemnisation éventuellement plus longue, s'ils atténuent ce que j'ai appelé tout à l'heure la filière, les avantages de la filière senior, ils peuvent avoir ce sentiment-là. Et du côté du MEDEF, ce qui est cherché, d'ailleurs ça a été exprimé de façon clair sur les deux derniers mois, c'est surtout une baisse des cotisations employeurs chômage. Donc c'est l'affichage qui avait été fait par le MEDEF et par son dirigeant. Donc là, il n'y a pas la même recherche, il n'y a pas la même attente des deux côtés. Et puis, je dirais que il peut y avoir d'une certaine façon, pour certains acteurs, l'attente que les décisions difficiles soient prises par l'État. C'est souvent le cas en France. C'est plus facile quand même quand c'est l'État qui prend les décisions difficiles et quand on peut dénoncer ensuite ces décisions difficiles.
Dans un instant, on va parler d'intelligence artificielle. Comment est-ce que la France peut rattraper son retard ? Un rapport a été remis il y a quelques semaines à Emmanuel Macron. Il liste 25 propositions pour rattraper ce retard. Au terme de 600 auditions et 7000 consultations, Philippe Aguillon, vous avez été coprésident de cette initiative. On en parle en détail juste après la pause.
Débat et controverse sur BFM Business. Stéphane Pedrazzi accueille les experts.
Deuxième partie de cette émission avec toujours nos trois experts en plateau. Dorothée Rouzet, chef économiste à la Direction Générale du Trésor. Philippe Aguillon, professeur au Collège de France. Et Gilles Berset, professeur d'économie à la Neoma Business School. On va parler de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que la France peut rattraper son retard ? Un rapport a été remis à la mi-mars à Emmanuel Macron. Il contient 25 propositions pour faire de notre pays un pays à la pointe de l'intelligence artificielle. Philippe Aguillon, vous êtes co-président de cette initiative aux côtés d'Anne Bouvreau. D'abord, un état des lieux. Je le disais, 600 auditions, 7000 consultations pour construire ce rapport. Qu'est-ce qu'il en est d'abord ressorti en termes de constat, d'état des lieux ?
En termes de constat, d'abord, on a voulu regarder un peu quel est... D'abord, le constat, c'est que c'est une véritable révolution technologique, au sens que ça affecte tous les secteurs d'activité, quoi. L'économie, l'organisation du travail, les services publics, l'information, la culture. Donc, c'est vraiment une révolution technologique, comme la machine à vapeur, comme l'électricité, comme les technologies de l'information l'ont été avant elle. Ensuite, il y a eu une accélération de cette révolution avec l'IA générative, avec le ChatGPT. Maintenant, eh bien, on peut générer des textes, des images, des sons à une vitesse incroyable. Il a fallu 5 jours pour que ChatGPT atteigne 1 million de souscripteurs. Alors que Netflix, il a fallu 2 ans et demi. Instagram, 2 mois et demi. Donc ça montre l'accélération extraordinaire. Donc c'est une révolution, c'est une déferlante. Et on ne peut pas y échapper. Donc le tout, c'est comment on peut le mieux s'y adapter.
Mais est-ce que la peur de cette révolution n'a pas conduit la France et l'Union européenne à pêcher par excès de prudence ? Je me rappelle, fin 2022, une tribune qui était signée des grands noms de l'intelligence artificielle, notamment Sam Altman, comparait les dangers de l'IA à ceux d'une guerre nucléaire qui aurait pu éradiquer l'humanité.
Alors justement, c'est là qu'on essaye dans ce rapport de dédramatiser, sans idéaliser non plus. Et on a déjà commencé à regarder, à faire une étude basée sur 9000 entreprises, et c'est grâce à des données de l'IMSEE, de 9000 entreprises françaises. On a comparé des entreprises qui adoptent l'IA à des entreprises similaires qui ne l'adoptent pas. Et on voit qu'au global, ils créent de l'emploi. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui adoptent l'IA deviennent plus productives, plus compétitives, elles augmentent le marché pour leurs produits et donc elles augmentent davantage. Alors, cet effet positif sur l'emploi est global. Il n'affecte pas uniformément tous les emplois. Il y a des emplois, à peu près 10% d'emplois, qui vont être risqués, dont la plupart des tâches vont être rendues redondantes par l'IA. Et c'est là qu'il faut une bonne organisation. Il faut un bon système de formation et une bonne organisation du marché du travail pour être sûr que ces individus rebondissent sur de nouveaux emplois. Mais voyez, quand même, là où on nous annonçait un risque existentiel de l'IA, que tous les emplois vont être supprimés, en tout cas, on voit que pour le moment, l'IA a des potentialités de création d'emplois, pas uniformes, il faut que le centre s'adapte. Elle a aussi des potentialités de croissance, parce parce qu'elle permet d'automatiser en partie non seulement la production des biens et services, mais la production des idées. On devient beaucoup, la recherche devient beaucoup plus productive grâce à l'IA. Et ça, ça crée des perspectives de croissance qui sont très importantes. Mais là, à nouveau, il faut faire attention parce que l'IA est dominée par quelques grands, les GAFAM, quelques grosses, des entreprises superstars et qui peuvent, à cause du manque de concurrence, décourager l'entrée de nouveaux acteurs. Donc, vous voyez, à nouveau, à chaque fois, il ne faut pas dramatiser sur le plan de l'emploi. Il y a des perspectives qui sont beaucoup plus radieuses, mais il faut un marché du travail adapté. Il y a des perspectives de croissance, mais il ne faut pas être non plus angélique sur les perspectives de croissance parce qu'il y a aussi des obstacles potentiels. Et il faut donc, l'idée, c'est de dire, c'est un truc formidable, l'IA, mais il faut adapter nos politiques et nos institutions pour tirer le meilleur parti des potentialités de croissance et d'emploi de l'IA.
25 propositions pour que la France tire parti de cette révolution. Avant d'en avancer quelques-unes, Gilles Berset, on a quand même le sentiment qu'on a pris un sacré retard.
Oui, après un sacré retard, je voudrais rebondir sur ce que dit Philippe, avec quoi je suis complètement en accord, pour souligner quand même deux aspects. D'une part, et quand on regarde dans le rétroviseur des précédentes révolutions technologiques, les révolutions technologiques ne sont pas l'ennemi de l'emploi. Sont pas factrices de chômage au niveau macroéconomique, au niveau des à l'échelle des pays. Bien sûr, localement, il peut y avoir des emplois qui sont changés, qui disparaissent, etc. Mais ce qu'on sait des révolutions technologiques précédentes, qui ont été quand même assez nombreuses sur les 150 dernières années, c'est que ces révolutions n'ont jamais été l'ennemi de l'emploi, n'ont jamais été factrices au niveau macroéconomique, au niveau des pays, de chômage.
On donne toujours l'exemple des allumeurs de réverbères qui, si on les avait écoutés, nous auraient empêchés d'avoir les
Absolument. Puis Alfred Sauvy donnait l'exemple du porteur d'eau à Paris. Il y en avait 20 000, vous voyez. On est très content quand même. Personne ne donne comme perspective de destin pour ses propres enfants de devenir porteur d'eau. Donc on est très content que cette profession ait disparu comme le poinçonneur des lilas. Alors ça, c'est un premier point qui me paraît important. Deuxième point, et d'ailleurs c'est un peu une question à Philippe, on attend des révolutions technologiques d'aboutir aussi à des gains de productivité, à une accélération de la productivité au niveau des pays, et donc source d'amélioration du niveau de vie pour l'ensemble des citoyens. Néanmoins, quand on regarde sur les 20 dernières années, on s'est trompé, et on s'est très fortement trompé, dans les attentes qu'on pouvait avoir les uns et les autres sur la diffusion des technologies d'information et de la communication. Avec d'autres, j'ai écrit au début des années 2000, vous allez voir ce que vous allez voir, les technologies de l'information et de la communication, ça va aboutir à une accélération de la productivité absolument phénoménale dans l'ensemble des pays développés. Ça n'a pas été le cas. Donc, qu'en penser, que penser sur ce plan-là de l'intelligence artificielle?
Je peux peut-être dire juste un mot, peut-être Philippe, avant que je... En fait, sur les révolutions d'éthique, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, donc d'abord, il y a eu Solow qui a dit on voit les ordinateurs partout, sauf dans les statistiques. Mais juste après, aux États-Unis, on voit qu'il y a eu quand même une irruption de croissance pendant 10 ans. Si on regarde la croissance moyenne de la PGF, de la productivité globale des facteurs, entre 1995 et 2005, entre début d'année, ça a été très fort aux États-Unis, parce que tu as eu la diffusion d'éthique. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, tu as eu des entreprises superstars qui ont émergé, les GAFA, et elles ont fini par inhiber l'entrée et l'innovation des autres. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elles ont été porteurs au début, porteuses de croissance, elles étaient plus productives, elles ont tiré parti de la révolution de l'Internet, etc. Mais elles, grâce à des fusions-acquisitions sans limite, elles sont devenues tentaculaires et elles ont fini par décourager l'innovation de nouveaux entrants. Et le problème qu'on a avec l'IA, c'est que dès le début, dans les segments amont, notamment le cloud, la puissance de calcul, on a déjà la dominance des gros. Et donc la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir modifier et améliorer la politique de concurrence pour que ce pouvoir, que ce potentiel de croissance des révolutions technologiques puisse être libéré.
Je vous donne quelques réactions sur les réseaux sociaux. Les amis européens nous disent voilà, vous formez les seniors à l'IA et vous réglez deux problèmes en même temps. Voilà, petite boutade par rapport au sujet précédent. Réaction également par rapport au sujet d'avant. Il est peut-être temps, nous dit Choc sur Twitter, temps de se réveiller, il faut arrêter de faire le marché, de faire marcher le pays en arrière, juste parce que le luxe et les vins pour qu'ils soient vendus. Voilà. Arrêtons la puissance des lobbies, nous dit-il. Peut-être un mot sur l'IA avant de détailler les mesures proposées avec Philippe Aguillon.
Oui, moi je vais réagir sur deux points. Le premier, c'est sur le retard de la France et de l'Europe, d'ailleurs, dans l'IA. Oui, on est en retard, surtout par rapport aux gros Américains. Après, il faut voir que l'IA, c'est toute une chaîne de valeur. Il y a plein de segments et on n'est pas en retard partout. On n'est pas autant en retard partout. Alors, c'est vrai que sur les gros calculateurs, sur les gros modèles, sur le cloud, on est très loin.
Très loin derrière Nvidia, par exemple.
Voilà. Par contre, il y a aussi des atouts en France sur lesquels on peut capitaliser, sur des segments aussi qui vont être importants. On a une électricité décarbonée. Or, on sait que les gros modèles d'IA, ils sont très, très consommateurs en énergie. Donc, à la fois peut-être sur des modèles un peu plus frugaux, un peu plus sobres, et sur des modèles faiblement consommateurs d'énergie, on peut avoir un coup à jouer. On a une recherche en IA qui, dont on n'a pas à rougir. On forme des très bons chercheurs. On a une recherche même en France qui est assez bonne. Alors, notre problème, c'est plus la rétention des bons chercheurs qui vont travailler aux États-Unis, mais on a un vivier quand même de gens qui sont très bons. Et puis, on a aussi peut-être un coup à jouer sur des sujets, peut-être des modèles plus sectoriels, mais là où on a des très bonnes données, on a des très bonnes données de santé, on a des très bonnes données dans le domaine du droit, où il peut y avoir aussi des modèles plus spécifiques, mais qui rencontreront un marché et où on peut s'appuyer sur des bonnes données. Donc après, évidemment, il faut transformer l'essai, et ça prend beaucoup de choses, et le rapport de Philippe est très intéressant pour ça. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus se dire qu'on part perdant sur tous les tableaux. Et puis, un deuxième point très rapidement, c'est aussi rebondir sur la question des gains de productivité. Je pense que voilà, on se focalise aussi sur comment on se positionne dans la production d'IA. Il ne faut pas oublier l'utilisation, parce que c'est du côté de l'utilisation que viendront les gains de productivité. Et c'est là qu'on a aussi beaucoup pêché sur la précédente vague d'innovation technologique. C'est que finalement, il faut aussi que les entreprises s'en saisissent, que jusqu'au tissu de PME, qu'ils adaptent un peu leurs méthodes, qu'ils forment les gens, encore une fois. Et en fait, si on n'a pas cette diffusion dans tout le tissu économique, les gains de productivité, ils resteront à la porte.
Philippe Aguillon, parmi les 25 mesures que vous avez transmises à Emmanuel Macron, quelles sont celles qui vous semblent le plus emblématiques?
Oui, disons qu'alors d'abord on veut lancer un grand plan de sensibilisation et de formation de la nation. Donc grand débat, café IA, formation à l'école, l'IA dès le début.
Donc évangélisation.
Voilà, évangélisation dans l'enseignement supérieur, mettre l'IA dans toutes les disciplines, l'IA les droits, l'IA la médecine, etc. Donc et former des personnes qui vont diffuser l'IA dans l'économie, comme le disait Dorothée. Donc ça c'est vraiment un grand plan de formation. Ensuite, le deuxième volet, c'est qu'on veut réorienter structurellement l'épargne vers l'innovation et créer à court terme un fonds IA de 10 milliards d'euros pour financer l'émergence d'écosystèmes d'IA et la transformation du tissu économique français. On veut faire de la France un pôle majeur en puissance de calcul, et ça on pense qu'on peut faire des choses sur la puissance de calcul. On veut faciliter l'accès aux données, par exemple les données de santé que tu mentionnais, que Dorothée mentionnait, par exemple, il faut des autorisations préalables pour les chercheurs pour utiliser les données de santé. Des fois, ça peut prendre 18 mois. Donc l'idée, c'est de dire, essayons de passer plus à une logique a posteriori, qui est celle de la RGPD,
protection des données,
réglementation générale des politiques de données européens, et passer à une logique plus a posteriori, et ne plus avoir besoin d'autorisation préalable pour l'accès des chercheurs aux données de santé, pour aller beaucoup plus vite dans l'innovation. Voilà. Une exception IA dans la recherche, puisque, en fait, le gros problème, c'est que les chercheurs, ils vont trop vite vers le privé, ils ne restent pas assez vers le public. Donc là, on peut imaginer différents schémas, par exemple, des IUF, des super IUF, Institut universitaire de France avec des moyens pour des très bons chercheurs en IA. On peut permettre à des chercheurs d'être un peu dans le public, un peu dans le privé, de favoriser des... Vous voyez, de faire en sorte que les chercheurs puissent rester en partie au moins dans le public et n'aillent pas tout de suite vers le privé. Faire en tout cas une exception IA. Et puis une gouvernance mondiale de l'IA, création d'une organisation mondiale de l'IA pour évaluer et encadrer les systèmes d'IA. Voilà, ça c'est un peu les grands actes. Mais c'est vraiment l'idée politique industrielle de l'IA et ouverture aux données. On est très pour le open source, on est très pour données accessibles, on est très pour que le DMA, le Digital Market Act, soit étendu à toute la chaîne de valeur de l'IA. Donc il faut dire tout un volet concurrence et volet industriel. Et on n'oppose pas les deux. On pense que les deux se renforcent l'un l'autre. Politique industrielle et concurrence.
Quand vous dites 10 milliards d'euros pour le financement, est-ce que c'est vraiment à la hauteur des enjeux? On voit que les Américains sont capables de mettre des montants démesurés sur la table.
Non, ça c'est à court terme. D'accord. Notre plan, lui, prévoit d'investissement public 5 fois 5 milliards d'investissement public. Mais l'idée, c'est de mobiliser des investissements privés.
Sachant que généralement, l'investissement public attire les capitaux privés.
Évidemment, voilà. Donc l'idée, c'est de mobiliser l'investissement privé. Et donc on dit à court terme ce fonds, mais ce qu'on propose de dépenser, c'est 5. Là, probablement, c'était 3 milliards sur 8 ans. Dans le plan précédent, on propose de passer à 5 fois 5 milliards d'argent public, qui ensuite, pour développer des acteurs IA et diffuser l'IA. Mais en même temps, l'idée, c'est évidemment de mobiliser le capital privé.
Est-ce qu'elle est très claire, Gilles Berset, la chaîne de valeur sur l'IA? On a l'impression que, depuis quelque temps, il y a des doutes sur la capacité des industriels à commercialiser l'IA. Quand, on ne va pas donner de nom d'entreprise, mais un éditeur de logiciels ajoute des fonctionnalités intelligence artificielle pour gagner en productivité, il a du mal à augmenter ses prix pourtant l'entreprise va y gagner en productivité.
Oui, moi ce que j'apprécie énormément dans le rapport qui a été dirigé par Philippe et par sa co-directrice, c'est le fait que les deux dimensions qui ont été rappelées tout à l'heure par Dorothée, à la fois l'utilisation et la production, sont vraiment soulignées. Comment à la fois faciliter l'extension, la diffusion la plus forte de l'utilisation de l'IA, et comment éviter du côté de la production d'abord que l'Europe soit distancée, et ensuite que des monopoles, des semi-monopoles ou des grandes entreprises érigent des barrières à l'entrée pour des nouveaux producteurs sur différents segments de la chaîne des valeurs. Je suis qu'à moitié convaincu par la démonstration qu'a faite tout à l'heure Philippe, parce que ce qu'il disait sur les barrières à l'entrée pour la production, c'est évidemment essentiel, mais les gains de productivité se manifestent surtout dans l'utilisation de l'IA, et de l'IA comme des technologies d'information et de la communication. Et les technologies d'information et de la communication sont utilisées par tout le monde, tous les jours, dans tous les lieux de notre activité. Et pourtant, on n'a pas, nous, en Europe, gros utilisateurs, bénéficié de gains de productivité. Donc il y a une énigme, il y a un puzzle qu'il faut encore comprendre, résoudre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce puzzle. Mais il y a une énigme, mais du côté de l'IA, est-ce qu'il pourrait ne pas en être exactement de même? C'est-à-dire qu'une diffusion massive, généralisée de l'IA, pourrait-elle se faire sans des gains de productivité forts, tangibles, au niveau des pays? C'est ça l'interrogation qu'il y a. Et on n'est pas au niveau de la production et des barrières à l'entrée que tu soulignes à juste titre, hein, oui. de ces risques-là que tu soulignes à juste titre. C'est au niveau de l'utilisation. Voilà. On n'a pas compris ce qui s'est passé précédemment.
Mais alors, il y a eu quand même. Réaction rapide et on passera à votre carte blanche.
Il y a eu quand même, si on regarde quand même les révolutions précédentes, il y a eu quand même 10 ans à chaque fois d'augmentation de croissance. Mais c'était 10 ans et c'était temporaire. La question, c'est savoir est-ce que l'IA. Alors, tu as raison, il y a l'énigme de la diffusion, mais il y a aussi les faits. Est-ce que l'IA, à la différence des révolutions précédentes, peut générer des gains de croissance plus durables que 10 ans? Et le pari, c'est que dans la mesure où on améliore la technologie de production des idées, pas juste la technologie de production des biens et services, on aurait l'espoir qu'il pourrait y avoir des gains de croissance productivité plus durables. Mais ça, évidemment, c'est une conjecture. Hein.
On va passer à votre carte blanche. Juste avant, je vous donne une réaction réseaux sociaux. Mascotte Dontla, il nous dit « On peut pas comparer les révolutions précédentes avec celles de l'intelligence artificielle, car celle-ci concerne les métiers intellectuels. Les précédentes concernaient des métiers manuels. » Et c'est pour ça qu'elle est différente. Il nous reste assez peu de temps. On va faire un tour de table.
Mais là-dessus, on peut répondre également. Mais on n'a pas le temps.
Oui, voilà. On est un petit peu pris par le temps.
On aurait pu répondre. Mais s'il veut me contacter, anytime.
Sur les réseaux sociaux. Vous avez choisi tous les trois un sujet qui vous semble important et sur lequel vous souhaitez vous exprimer. On va commencer avec vous, Dorothée Rouzet. Vous vouliez parler du marché unique européen.
Oui, je voulais en parler parce que déjà c'est l'occasion d'essayer de parler d'Europe en positif, et ça revient pas si souvent que ça dans le débat. Et puis c'est un sujet sur lequel par ailleurs l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta doit remettre des propositions dans les prochains jours. Donc pour revenir sur le fait que le marché unique, c'est pas un sujet de techno en un sens, mais c'est au cœur de la construction européenne depuis le début, hein, depuis le traité de Rome de 1958, oui. Et que ce dont on parle côté européen en termes de contraintes, à la fois de réglementation, de contraintes sur la concurrence, sur les aides d'État, etc., c'est aussi la contrepartie des bénéfices que ça nous a apporté d'être un marché de plus en plus intégré sur les biens, les services, les personnes. Dans le marché européen, on a le plus gros marché de consommateurs. On a 450 millions de consommateurs. On a 23 millions d'entreprises. C'est le terrain de jeu des PME exportatrices. C'est-à-dire que les PME qui exportent en Europe, elles font 70% de leurs exportations au sein du marché unique. Et quand on s'est penché sur quels ont été les impacts, quand on regarde en perspective longue, on a publié au Trésor un petit document sur le sujet. Et on voit que sur les décennies écoulées, à la fois, on a eu un vrai impact en termes de concurrence qui bénéficie aux consommateurs. C'est-à-dire que donc les markups, c'est-à-dire la marge entre le coût et le prix chargé, pendant qu'il augmentait aux États-Unis, il est resté stable en Europe, et il y a une partie de ça qui est liée au fait qu'on a un marché assez concurrentiel sur les biens notamment. En termes de productivité, ça a permis aux entreprises européennes d'avoir plus de taille, en fait, de croître. Donc les plus productives ont pu avoir plus de croissance. Et là aussi, il y a des études qui estiment que c'est la moitié des gains de productivité européens sur la décennie 2010, c'est dû à ça. Et inversement, ce qu'on n'a pas vu et qu'on pouvait craindre, c'était une spécialisation. On pouvait craindre que, du coup, dans ce grand marché, on allait avoir l'industrie à haute valeur ajoutée qui se concentre dans certains pays, les secteurs à faible valeur ajoutée qui se concentrent dans d'autres. Et ça n'a pas été le cas. Au contraire, les pays ont plutôt convergé changé en termes de structure. Donc, voilà, pour tout ça pour dire que quand même, il y a, voilà, sur beaucoup d'aspects, l'Europe sur le plan économique, ça apporte aussi des bénéfices. Et du coup, ça vaut le coup de se pencher sur ce qui manque. Alors, ce qui manque, c'est sur les marchés de capitaux. On a encore un marché très fragmenté. Ça rejoint pas mal le sujet dont on vient de parler sur l'IA, parce que l'union des marchés de capitaux, là aussi, hein, ça a l'air de jargon technique. Ce que ça veut dire, c'est les entreprises qui cherchent à se financer, en fait, elles se financent largement sur 27 marchés et pas sur un seul. Et donc, en termes de taille, en termes d'échelle, en termes de financement plus risqué de l'innovation, c'est un vrai handicap par rapport aux États-Unis. Et puis aussi sur les services ou sur l'électricité, il reste des choses à faire. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est un vrai réservoir de croissance qui ne coûte rien aux finances publiques et ça compte dans les temps qui courent. Et donc je pense que ça serait bien que ça fasse partie du débat européen qu'on va avoir dans les prochains mois. Voilà.
La carte blanche de Philippe Aguillon rejoint un petit peu ce que vous venez de dire, puisque Philippe, vous vouliez parler d'innovation en Europe.
Oui, il y a un autre rapport qui vient de sortir, auquel Jean Tirole a participé avec Daniel Gross et d'autres auteurs, qui étaient initiés par l'école de la Bocconi, sur la politique d'innovation en Europe. Et je ne veux pas rentrer Et en fait, ce qu'il ressort de ce rapport, c'est que alors que les États-Unis, investissent beaucoup de la R&D, ils innovent beaucoup dans le high-tech, les logiciels, les computer services et pharmaceutiques, tout ce qui est donc pharmaceutique d'un côté et software, ordinateur, etc. L'Union européenne, on est dans une trappe de mid-tech. Vous voyez, surtout automobile, etc. Donc on reste, il y a un peu l'idée de dépendance au sentier. On a été très bon dans ces mid-tech et on reste bloqué encore dans ces mid-tech. Voilà. Et on ne va pas suffisamment vite vers les high-tech et vers la frontière.
Voilà. Quels sont les freins ?
Eh bien, en tout cas, le rapport, en tout cas, met l'accent sur un aspect. Je dis, c'est pas le seul aspect. On pourrait voir toute la chaîne d'innovation. Je pense qu'aux États-Unis, la recherche fondamentale est beaucoup mieux financée. Ils ont un capital risque beaucoup mieux financé. Ils ont des investisseurs institutionnels beaucoup plus développés que chez nous. Donc, il y a toute une chaîne d'innovation. Mais ils ont également quelque chose. Ils ont les DARPA, Defense Advanced Projects Research Agency. C'était une manière moderne de faire de la politique industrielle, mais qui a poussé vers les high-tech. C'était fait dans les années 50 parce que il y avait la concurrence avec l'Union soviétique sur l'espace et la défense. La DARPA, c'est une manière très moderne. L'argent vient d'en haut, il y a plein de chefs d'équipe, et puis ils suscitent des projets concurrents. Et c'est comme ça qu'ils ont mis des hommes dans l'espace, que l'Internet et tout ça sont des inventions qui sont en fait des corollaires de ce que la DARPA avait initié.
Et on devrait
s'inspirer. Après, ils ont fait la ARPA dans le domaine de la biologie qui fait qu'on est tous là, c'était les vaccins. Vous voyez, l'ARN messager, il y a eu plein de labs qui ont financé des vaccins basés sur l'ARN messager. Ils ont des choses pour faire ça. Ils vont vers le high-tech. Et nous, on a quelque chose qui est l'équivalent de ça, mais qui est le European Investment Innovation Council, qui se veut une DARPA, mais dont ils expliquent que ça ne fonctionne pas du tout comme la DARPA. Et en fait, ça va beaucoup vers les petites et moyennes entreprises qui sont déjà dans des segments beaucoup plus près de la commercialisation, qui vont beaucoup moins sur les maillons très préliminaires, les maillons les plus frontières, voyez. Et c'est ça que ce rapport explique très intelligemment. C'est que cette European Innovation Council, qui voudrait être une DARPA, n'est pas du tout une DARPA de plein de... Elle n'est pas gouvernée comme telle, et en fait, elle favorise beaucoup des PME, et c'est très bien d'aller vers les PME, mais des PME qui sont déjà très dans les segments mid-tech, quoi, et pas tellement dans le high-tech. C'est très intéressant, parce que ça voilà quelque chose qui pourrait être fait au niveau européen, peut-être avec le European Buy Act, mais de dire, voilà, ayons une nouvelle politique d'innovation avec une nouvelle gouvernance, et ce rapport, je le recommande, parce qu'il donne vraiment des pistes très intelligentes pour comment l'Europe peut devenir un nouveau frontière en innovation.
De l'économiste Jean Tirole. On va terminer avec votre carte blanche à vous, Gilles Berset. On parle beaucoup d'emploi en ce moment. Comment est-ce qu'on peut améliorer le taux d'emploi ?
D'abord, il faut constater que les difficultés de finances publiques en France, quand on les évoque en ce moment, c'est une grande banalité, parce qu'elles ont été largement dans l'actualité récente, mais on est un pays qui dépense énormément, qui taxe aussi énormément. On est champion toute catégorie sur ces deux créneaux, mais on a beaucoup de difficultés en ce moment pour financer la transition climatique, pour financer des projets ambitieux comme le soutien à l'IA, pour financer des réformes structurelles pourtant indispensables comme celle de l'éducation nationale. Et on a ces difficultés fortes. Pourquoi ? Mais parce qu'on est un pays relativement pauvre comparé à d'autres pays qui sont dans notre entourage immédiat. Si on compare la France à un pays comme les Pays-Bas, par exemple, on voit que le produit intérieur brut par habitant en France France est près de 20 points en dessous de celui des Pays-Bas. C'est quelque chose d'énorme quand même, 20 points en dessous de celui des Pays-Bas. Vous voyez, je ne compare pas aux États-Unis, on est 30 points en dessous des États-Unis. Mais même par rapport aux Pays-Bas, 20 points en dessous. Et quel est le principal facteur de cet écart par rapport aux Pays-Bas ? C'est un faible taux d'emploi. Un taux d'emploi qui est en France d'environ 68% alors qu'il est de 82% aux Pays-Bas pour la population âgée de 15 à 64 ans. Alors, rêvons d'un coup, qu'est-ce qui se passerait si la France, immédiatement, d'un coup de baguette magique, rejoignait le taux d'emploi des Pays-Bas ? Ben, même avec des hypothèses vraiment très très prudentes, que les nouvelles personnes en emploi auraient une productivité moitié moindre de ceux qui sont déjà en emploi, eh bien, le produit intérieur brut serait plus élevé en France de plus de 10%. Et compte tenu de notre taux de prélèvement obligatoire, c'est environ 140 milliards d'euros par an qui arriveraient dans les caisses publiques. Donc, vous voyez, les difficultés qu'on a à financer des réformes structurelles, les difficultés qu'on a à financer des programmes ambitieux comme ceux de l'IA, les difficultés qu'on a à financer une quantité de choses, le désendettement public et le caractère indispensable de ce désendettement, disparaîtraient immédiatement. Et sur quoi on doit agir ? Sur trois populations pour lesquelles le taux d'emploi est particulièrement bas quand on se compare à un pays comme les Pays-Bas. Les jeunes, bon, des réformes sont en cours, peut-être que les plus prometteuses d'ailleurs sont assez peu évoquées dans le débat public. Je parle entre autres des lycées professionnels, les personnes non qualifiées, et là aussi des réformes sont en cours. Celle de l'indemnisation chômage, celle du RSA, etc. Et puis, les seniors, et des réformes sont en cours, celle des retraites. Donc, cet effort de réforme doit être maintenu, doit être amplifié, doit être prolongé, coûte que coûte, sur les prochaines années, parce que dans l'attente du bienfait peut-être potentiel de gains de productivité qui pourraient nous arriver de la diffusion de l'IA, eh bien, la France peut retourner en avantage ses inconvénients actuels et bénéficier d'un enrichissement qui viendrait simplement d'un rapprochement de sa situation en termes d'offre de travail de celle qu'on observe sur des pays qui sont pas si éloignés, qui sont pas des enfers sur Terre et dans lesquels les gens d'ailleurs semblent finalement assez heureux.
Très très vite, vous parlez de productivité. On sait qu'en France, on a de gros efforts à faire. On a une productivité qui se dégrade. Est-ce que ça ne va pas contre le taux d'emploi, justement ?
Alors, la productivité qui se dégrade aussi pour des raisons tout à fait logiques. Le taux d'emploi en France a augmenté. L'augmentation du taux d'emploi est un facteur de baisse de la productivité parce que les personnes qui rejoignent l'emploi, qui étaient à l'écart de l'emploi, qui rejoignent l'emploi, sont bien sûr pas les personnes les plus productives qui étaient déjà en emploi. Et l'augmentation longue du taux d'emploi et importante du taux d'emploi que je viens d'évoquer se traduira aussi par une baisse de la productivité, un décrochage de notre niveau de productivité par rapport aux États-Unis. On avait, il y a encore une dizaine d'années, un niveau de productivité, certains disaient, regardez, on est équivalent aux États-Unis, voire peut-être légèrement supérieur en termes de productivité horaire au niveau américain. Ben oui, mais c'était pour de mauvaises raisons. On concentrait l'emploi sur la part de la population qui était la plus productive. Ce faisant, évidemment, on avait un niveau de productivité horaire énorme. À partir du moment où on élargit l'offre de travail, bien sûr, on fait baisser la productivité. Néanmoins, ça se traduit aussi par un enrichissement global de notre économie, une augmentation du produit intérieur brut par habitant.
Merci beaucoup. Gilles Berset, professeur d'économie à la Neoma Business School. Merci à Philippe Aguillon, professeur au Collège de France. Merci pour ce rapport sur l'intelligence artificielle dont on a pu parler. Et merci également à Dorothée Rouzet, chef économiste à la Direction Générale du Trésor. À suivre, Lorraine Goumeau et toute son équipe pour Tout pour Investir. Je vous retrouve demain à partir de 9h. Très bonne journée.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.